France Musique. France Musique, les grands entretiens, François-Xavier Chemchak.
Je m'appelle Cyril Huvet, je suis né le 9 février 1954 à Paris, je suis pianiste.
Cyril Huvet, c'est la quatrième partie de notre entretien et je voudrais évoquer avec vous votre répertoire à travers quelques compositeurs marquants. Vous êtes non seulement pianiste, mais aussi vous êtes discophile. Et cette connaissance des enregistrements anciens, elle est passée par votre activité ici même à Radio France. Vous avez été producteur pendant 2 ans et je voudrais qu'on écoute sur une cassette audio que vous avez apportée une sonorité de cette époque France Musique dans les années 70.
I dream in music and what I say in music.
Pablo Casals. Et ça, c'est le générique de votre émission. Avec la mer.
Une œuvre de Bach ce soir, la 3e suite pour violoncelle seule. Un enregistrement inédit du Festival de Prades, donc un enregistrement de juillet 1955. Pablo Casals joue la 3e suite en ut majeur de Jean-Sébastien Bach.
Et voilà. Merci de nous avoir apporté cette archive. Donc 1975.
75. Oui, 76 peut-être.
Vous avez quel âge donc? 22 ans.
22 ans, oui.
Avec une belle voix grave, belle voix radiophonique. On va revenir un peu sur cette époque. Cette émission s'appelait...
Alors, ça s'appelait Les Vieilles Cires. Donc, elle a commencé le 17 août 1975.
À l'époque de Louis Dandrel, qui a été
C'est
directeur fameux de France Musique, qui nous a quittés récemment.
En fait, au Conservatoire de Paris, où j'étais donc élève depuis un an, de la classe de Dominique Merlet, le conseiller aux études Jean-Paul Rionnier nous a fait savoir que le directeur de France Musique voulait avoir des étudiants du conservatoire comme leur proposer de faire des émissions parce qu'il voulait renouveler l'ambiance de la chaîne. Et alors, nous sommes allés à deux avec Pierre-Laurent Aymard au mois d'août dans cette maison et on a vu Monsieur Louis Dandrel qui nous a fait une proposition de faire. Et alors après, Pierre-Laurent est parti parce qu'il était déjà à l'aube d'une carrière internationale importante, donc il n'y avait pas trop le temps, mais moi, j'ai répondu présent et donc on a imaginé cette émission. Mais il faut dire qu'à l'époque, les documents, les repiquages, comme on disait, n'existaient pas beaucoup. Donc en fait, il fallait à chaque fois retourner au 78 tours original, le faire copier par un vieux monsieur qui était au 10e étage, je crois, de la tour centrale, en blouse blanche, qui m'apportait les bandes. Et puis, alors, il fallait après faire les raccords de face. Alors finalement, je faisais un petit peu de montage sur un ferrographe chez moi.
Sur un
Sur un ferrographe, ça m'a magnétophone qui est en 38 à bande.
Vous vous souvenez de l'ambiance de travail de ces années 70? J'imaginais que tout le monde fumait dans tous les sens, dans les studios.
Oui, voilà. Tout à fait, voilà, c'est exactement. J'ai fait aussi d'autres émissions, le matin des musiciens et autres, la règle du jeu, mais pour venir à la maison de la radio, l'émission était à 22h le samedi soir, toujours, ici. Et après, c'était suivi d'une émission de Joséphine Markovitch et d'une autre productrice qui s'appelait Anonymes et Sentimentales. Et alors, Joséphine Markovitch, qui est maintenant toujours la directrice du Festival d'automne. Et dans cette émission Anonymes et Sentimentales, c'est une de celles qui a provoqué le départ de Louis Dandrel parce qu'il y avait des plaintes après à l'Assemblée nationale, des questions écrites. Et donc finalement, Louis Dandrel a démissionné, c'était le 8 septembre 1977. Et on a été beaucoup à quitter la radio avec lui, en fait. Et on a fait un grand concert même de protestation à la Salvagram. Thank you.
Beethoven, eh bien c'est le compositeur que vous avez mis en avant en février 2020 pour un enregistrement de deux CD réalisé chez Edwin Bunch avec 5 classiques, 5 sonates à surnom, La Pathétique, La Claire de Lune, La Tempête, elle a été enregistrée à Châtellerault, La Waldstein et La Passionata. C'était ça le critère de programmation, trouver des sonates à surnom?
Oui, sans doute, des sonates à titre, comme ça. Ben, c'est des sonates que j'avais envie d'enregistrer, j'ai beaucoup joué, donc j'avais envie de les jouer, en fait. Et on aurait pu en prendre d'autres, mais je pense que si elles ont des titres, d'ailleurs qui ne sont pas de l'auteur forcément, mais elles marquent un caractère spécial de l'âme de Beethoven. Elles sont emblématiques, en fait, de son écriture, et aussi du passage d'une période à l'autre, et d'un instrument à l'autre, parce que le pianoforte viennois, été utilisé au début. Après, il y a une période où Beethoven a reçu ou avait commandé en fait à Erard à Paris un piano Erard de tout début et qui a lancé l'écriture de la Waldstein et de la Passionata. Donc en fait, c'est après il est revenu plus au piano viennois avec le Konrad Graf qu'il a eu pour les derniers opus. Dans les trois périodes d'écriture de Beethoven, il y a aussi la question de l'ambitus de l'instrument qui joue parce que il est parti d'un 5 octaves. Comme l'ambitus de Mozart, en fait, c'est assez étonnant de penser que le 5 octaves, c'est jusqu'à la 18e sonate, en fait. Après, il y a le 6 octaves pour Waldstein et Passionata jusqu'à l'opus 90. Et après, pour les 5 dernières sonates et les variations d'Abelli, il y a le piano à 6 octaves et demi.
Donc plus de grave et plus d'aigu.
Voilà. Et c'est tout. Et le 6 octaves et demi, c'est toujours le format qui a été celui de Chopin, de Schumann et d'une bonne partie de Brahms. Avant de passer aux 7 octaves qu'on a maintenant, 7 octaves et 2-3 notes.
Dans un livret de ces disques, vous citez Beethoven, « Que m'importe vos maudits instruments quand le souffle de l'esprit me saisit ?» Alors vous liez l'écriture de Beethoven à l'évolution des instruments qu'il a connus, mais est-ce qu'on ne peut pas se dire que « Que importe ces maudits instruments », c'était une façon de rejeter les instruments de son époque et de légitimer les instruments modernes ?
Oui, on pense toujours que la musique a suivi une trajectoire de progrès et d'amélioration. On pense toujours que ce qui était avant était moins bien que ce qui était après. Ça, déjà, c'est une chose de base qu'on peut, il faut s'interroger là-dessus, savoir si c'est vrai. Et deuxièmement, cette phrase que vous citez, il l'a dite surtout au sujet des instruments à cordes, quand le quatuor Schuppanzig
se plaignait de la virtuosité.
C'est ça. Voilà. Mais cela étant, je pense que dans l'écriture, on a vraiment une adéquation parfaite entre ce qui est écrit et l'instrument.
Vous expliquez ça à travers la tempête notamment. Vous dites qu'il n'aurait pas écrit tel passage s'il n'avait pas eu tel instrument sous les doigts.
Voilà, parce que il a eu la science de décrire seulement 3 notes dans un accord et pas 5 à tel endroit. Et si on le fait sur un piano moderne, ça rend rien. Enfin, ça rend ce que ça rend, c'est très bien, mais
ça reste du Beethoven, quoi.
Ça reste du Beethoven, mais ça prend un caractère unique sur l'instrument sur lequel il a écrit.
Thank you.
France Musique, les grands entretiens de Cyril Huvé.
Vous avez enregistré La Tempête de Beethoven sur un piano Schanz, et c'est déjà un piano sur lequel vous avez joué en 2003 au château de Valençay, château de Talleyrand, avec la violoniste Georgia Flézanis, qui est violon solo de l'orchestre du Minnesota. Pouvez-vous nous parler un peu de cette rencontre, cette expérience? Voilà. Je crois que vous le connaissiez depuis longtemps d'ailleurs.
Oui, alors Georgia Flézanis, je l'ai rencontrée grâce à Roger Norrington pour une expérience au South Bank de Londres, où on avait joué la fantaisie en do majeur de Schubert, violon piano. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a travaillé sur le travail de duo. Souvent, on peut jouer avec quelqu'un et puis on laisse un peu au hasard certains paramètres où, disons, les gens s'apprécient plus ou moins. Bon. Tandis que là, on n'a pas fait ça trop de manière psychologique, mais on a fait ça de manière tout à fait rationnelle de travail vraiment d'un duo, comme on travaillerait un seul instrument. On a cherché à avoir une version commune de chaque sonate dans laquelle on se reconnaisse et l'un et l'autre. Et on l'a fait en partant des tempi originaux qu'on connaît par Czerny et ensuite que Rudolf Kolisch a retravaillé et a fait une nouvelle version. En fait, à l'époque de Beethoven, Czerny, qui était son disciple, a éprouvé le besoin d'expliquer au public anglais quel tempi il fallait pour jouer toutes les œuvres de Beethoven, parce que les gens ne les comprenaient pas forcément. Donc il a écrit un ouvrage sur les tempi propres qu'il fallait avoir pour Beethoven. Bon, ensuite, Beethoven lui-même a métronomisé certaines de ses partitions. Alors, on a dit que parfois, il ne savait pas si c'était tout à fait juste, mais en tout cas, ça existe. Donc, on a travaillé là-dessus longuement. Et puis, les tempi par Kolisch, ils sont encore plus excessifs. Et on pense que le caractère de la partition dépend de la vitesse du personnage aussi. Voilà, qu'il y a certaines idées musicales qui fonctionnent à une certaine vitesse et qui fonctionnent autrement à une autre. Et avec les instruments, le Schanz et le violon Storioni, l'archet qu'elle avait, et donc on a expérimenté toute autre façon de voir les sonates pour nous, en tout cas, non pas le piano en fond harmonique, mais plutôt un piano d'expression individuelle. C'est-à-dire que les motifs donnés par le violon sont toujours repris dans les compositions à la main droite du piano et à la main gauche. Et ça, c'est typiquement viennois, justement, c'est-à-dire d'avoir des membres de phrases articulés, et non pas, ce qui serait plus anglais, ce serait d'avoir une grande trame harmonique de laquelle émerge le violon. Et c'est plutôt comme ça qu'elles sont entendues quand on les joue couramment sur des instruments modernes. Vous avez la sonate Le Printemps, par exemple, vous avez l'impression que le piano est un écrin sur lequel le violon s'appuie pour chanter. Alors, qu'en réalité, le violon chante tout autant, mais le pianoforte a les mêmes éléments dans les doigts, donc c'est un échange en trois parties qui se répondent.
Cyril Huvé, il y a un compositeur qui est très présent, c'est même le plus présent dans votre discographie, en commençant par la fameuse intégrale des leaders qu'on avait évoquée, c'est Franz Liszt. Pour vous, c'est peut-être d'abord les rencontres essentielles avec Claudio Rao et George Tiffra. Quel est le Liszt qui vous touchait à cette époque, on dit le tzigane, le franciscain, ou alors c'est tout ça à la fois dans un livret, vous parlez de sa virtuosité expressive, de sa vocalité pianistique. Quel est le Franz Liszt que vous aimez, vous?
la personne, je pense, en fait, d'abord. Et je me vois un peu comme, vous me demandiez comment j'avais été un peu autodidacte, en fait, dans ma formation, puisque j'ai eu la possibilité d'aller à la bibliothèque de la radio, quand j'étais assez jeune, de copier des partitions, justement, de Franz Liszt, où j'ai commencé peut-être plutôt par le dernier Liszt, en fait. Le Liszt un peu
dépouillé.
Dépouillé, voilà, parce que ça existait moins en partition. Je me revois souvent finalement lire des livres un peu le soir ou la nuit, un peu en cachette, de lire des ouvrages sur des compositeurs, dont Liszt, voilà, en fait.
Ce Franz Liszt est au centre de plusieurs disques que vous avez réalisés, Cyril Huvé, en 2015 avec Liszt Carnet d'un pèlerin. En 2017, vous avez enregistré chez le facteur de piano Stephen Polello à Ville-Thierry, entre Sens et Fontainebleau, aux côtés de Debussy et Scriabine, trois œuvres de Liszt, dont la sonate en si mineur. Alors là, c'était un double défi. D'abord, il y a cette montagne extraordinaire, fascinante, et j'imagine toujours intimidante pour tous les pianistes, qu'est cette sonate. Et puis ce nouveau clavier, parce que vous jouez sur des claviers anciens, et puis vous avez joué sur un ultra moderne. Parlez-nous un peu de cette expérience.
Oui, alors ça m'a vraiment semblé d'abord cohérent, mais en même temps, je trouvais que ce piano de Stéphane Polello a des possibilités inédites.
C'est un piano qui s'appelle l'Opus 102, parce qu'il y a 102 touches.
Exactement.
Contrairement aux 88 du piano.
Voilà, donc de chaque côté, un peu 14 touches de plus, donc une partie dans l'aigu, une partie dans le grave.
Pourtant, Liszt sollicite, lui, moins de 102 touches. Pourquoi on a besoin de ces touches ultra aiguës et ultra graves?
Alors, le fait qu'il y ait ces touches ultra aiguës et ultra graves qu'on n'utilise pas dans la sonate de Liszt, mais ça fait que les notes extrêmes du piano, qui sont un peu appauvri sur un piano de 88 touches, de fait qu'il y ait des touches en plus, ça fait qu'elles se retrouvent plus au milieu, en fait.
Par sympathie,
et elles prennent un côté lunaire, en fait, une présence sonore identique à celle d'un instrument d'orchestre. Donc là, on a l'impression, avec l'Opus 102, d'avoir dans les mains un orchestre soi-même. Donc ça donne des nouvelles possibilités, parce que le son des aigus tiennent beaucoup plus longtemps. Donc la polyphonie apparaît autrement. On l'entend autrement. Donc ça redistribue la question même du tempo, d'ailleurs, parce que il y a des choses qui demandent plus de temps pour se faire et qu'on doit entendre plus lentement, en fait.
Vous êtes à la grange au piano, Cyril Huvé, vous ouvrez une partition de Beethoven, de Chopin, de Liszt, vous allez forcément vers tel ou tel piano, vous faites des essais de sonorité, ou alors il y a des évidences, on joue forcément Chopin sur tel piano, à la grange au piano.
Eh bien, je fais des essais, mais toujours en revenant aussi au piano moderne pour comparer. Et surtout, oui, le piano est rare. Je l'utilise assez souvent pour faire des essais sur la musique romantique, évidemment. Celui, finalement, qui me manque, c'est pour Schumann. Parce qu'en fait, il n'y a pas de piano schumannien.
Qu'est-ce qu'il vous faudrait?
Il faudrait que je sois à la place qu'Konrad Graf avait donnée à Robert et Clara Schumann un piano pour leur mariage. Voilà, donc
on peut demander aux auditeurs, si jamais vous avez un Konrad Graf à vendre, Cyril Huvet, pour être preneur. Alors justement, dans cette grange au piano, on remarque une photo qu'on voit très bien pendant les concerts. Elle est bien en vue, accrochée à un mur. C'est la photo de Ferruccio Busoni, qui a été le compositeur de votre tout premier enregistrement officiel, un 33 tours, en 1985. Et dans le livret de la réédition de ce 33 tours, réédition en CD, vous parlez du tandem Rafael da Silva, Claudio Arrau, vous aviez longtemps fréquenté. C'est toujours délicat le choix du répertoire d'un premier disque. C'était évident, Busoni, pour vous à ce moment-là? Vous aviez donc...
31 ans. Pour moi, c'était évident, mais sans doute, c'était pas du tout la chose qu'il aurait fallu faire. Mais
pourquoi Busoni, alors?
Eh bien, parce que j'aimais beaucoup. Enfin, j'aime toujours, d'ailleurs. Ça, et je trouve que c'est un compositeur tellement fulgurant. Voilà. Je trouve que il y a une sorte de fulgurance italienne et intelligence allemande. Enfin, c'est un personnage hors norme, parce qu'il justifie déjà, par exemple, la transcription en disant que toute idée existe dans le ciel des idées, toute idée est par définition abstraite, et donc elle s'incarne dans une forme ou une autre. Donc, c'est pas parce qu'elle s'est incarnée dans une forme par le compositeur qu'on peut pas l'incarner dans une autre forme, parce qu'on s'appelle Busoni, et donc lui donner un autre visage. Et bon, il l'a fait beaucoup pour Bach. On le connaît un peu pour ça, mais c'est finalement un aspect secondaire. Dans le fond, les fameux Bach Busoni, il n'y a pas que ça. Enfin, c'était aussi un grand compositeur original qui est contemporain dans sa jeunesse de Liszt. Mais même, c'est pas sûr qu'il soit jamais rencontré. Mais c'était le pianiste expérimental en fait à son époque. Je pense que c'était un pianiste expérimental. Et il a donné 12 concertos de Mozart à Berlin dans les dernières années de sa vie, qui sont restés pour les auditeurs des expériences inouïes d'objets sonores étranges, en fait.
Et vous qui parlez beaucoup du rapport à la voix, de la vocalité, la tourbrouillère plage de votre premier enregistrement, c'est autour de Carmen.
La Carmen Fantaisie.
Voilà, la sixième sonatine de Busoni.
Voilà, qui est un abrégé de Carmen en 5 minutes, 6 minutes.
On connaît bien les thèmes de Carmen de Georges Bizet dans cette sixième sonatine de Ferruccio Busoni, jouée par Cyril Huvet. Demain, cinquième et dernière partie de ces grands entretiens, nous reviendrons sur la grange au piano de Chassignol dans le Berry.
À réécouter sur francemusique.fr.